Voix au lume présente La trahison de Marie-Louise, de Octave Aubry, lu par Philippe Collier. Chapitre 1. Neipperg. Au matin du 17 juillet 1814, Marie-Louise, à présent titrée duchesse de Parme, dans sa grosse berline de voyage encore timbrée des armoiries de l'Empire français, cheminait vers Aix-les-Bains. Près d'elle, sur la banquette du fond, était assise Madame de Brignoles, génoise fertile en ruse, affidée de Talleyrand qui, depuis le retour en Autriche, s'appliquait à détourner son esprit de Napoléon. Devant se tassait le bon Ménval, secrétaire des commandements, Mademoiselle Rebusson, ancienne femme de chambre promue lectrice, et son fiancé, le docteur Hérault. Marie-Louise parlait beaucoup et gaiement. Elle adorait le voyage, la vie libre qu'il permet dans l'abandon des étiquettes pesantes. La beauté du pays la ravissait. Le jour précédent, elle avait poussé jusqu'à Chamonix et fait à dos de mulet l'ascension du Mont-en-Vert. De l'avis de Ménval, elle s'y était montrée hardie jusqu'à la témérité. Sa santé pourtant était médiocre. Elle toussait souvent, avait des accès de fièvre. Elle dormait mal. Très maigre, elle portait trop haut une forte poitrine. Ses joues marquées déjà de coupe rose, ses yeux bleus de faïence toujours étonnés, ses lèvres, lourdes et gourmandes, lui donnaient plus que jamais l'air d'une grande poupée battue. Pour ne point alarmer les puissances alliées et se rendre agréable aux Bourbons rétablis, elle avait pris le nom de comtesse de Colorno, d'un de ses châteaux de Parme, où elle espérait que son père, l'empereur François, l'autoriserait à résider bientôt. Sans doute regrettait-elle un peu d'avoir à Schönbrunn quitté son fils. Volontaire et gracieux sous ses boucles blondes, il s'était pendu à son cou, l'avait supplié de l'emmener. Ce n'était point possible. Le fils de Napoléon, le roi de Rome, en Savoie, territoire français. Les Tuileries, ni Metternich, ni eussent consenti. Madame de Montesquieu, maman Q, le garderait. Madame Soufflot et la jeune Fanny qui l'aimaient tant le distrairaient. En ce moment, peut-être, sous les charmilles de Schönbrunn, il s'en allait avec elle donner du pain aux carpes des bassins ou visiter les animaux de la ménagerie. En vérité, Marie-Louise pouvait avoir de ce côté l'esprit libre. Elle l'avait moins du côté de Napoléon. Elle pensait encore souvent à lui et à l'île d'Elbe où, confiant, il attendait sa venue. Il désapprouvait ce voyage à Aix. Il le lui avait fait écrire. Il trouvait peu convenable que Marie-Louise vînt résider particulièrement en un pays où 6 mois plus tôt elle était souveraine. Que n'allait-elle prendre les eaux en Toscane? Elles y étaient aussi bonnes qu'à Aix. Là, du moins, elle serait près de lui, il pourrait correspondre aisément. Marie-Louise avait fait la sourde oreille. Corvisart lui avait prescrit le traitement d'Aix et nul autre. Soucieuse de ses malaises, elle ne voulait pas lui désobéir. Elle devait du reste le retrouver en Savoie et aussi sa plus chère amie, la duchesse de Montebello, de qui elle ne s'était séparée à Vienne qu'avec des larmes. La duchesse lui donnerait des nouvelles de Paris, de la cour, des modes, de la vie élégante que Marie-Louise hautement regrettait. C'était de vraies vacances qu'elle s'était ménagées là. Même un ordre de l'île d'Elbe ne l'y eût pas fait renoncer. Mais Napoléon n'envoyait point d'ordre, seulement des prières. Et Marie-Louise, tout à sa neuve indépendance, ne les entendait plus. Près de Carouge, une surprise l'attendait. À la rencontre de sa berline, vinrent 2 cavaliers, un officier général suivi de son aide de camp. Descendant de cheval, le premier se présenta à la portière et, ôtant son bicorne emplumé, salua profondément l'impératrice. Il se nomma le général Neipperg. Il commandait hier une division à Pavie. L'empereur François le mettait aux ordres de sa fille pour lui servir durant son voyage de chevalier d'honneur. Ce n'était pas, comme on l'a dit souvent avec une autorité trompeuse, Metternich qui avait dicté ce choix. Le chancelier d'Autriche était à Paris et il ne semble pas qu'on l'ait même consulté. Le prince Nicolas Esterhazy avait d'abord été désigné. Il était vieux et valétudinaire. Au dernier moment, Schwarzenberg le fit remplacer, sans aucune arrière-pensée, par Neipperg, que depuis longtemps il appréciait. Le hasard a de ses jeux. On y cherche plus tard des calculs. À vouloir lui faire tout expliquer, on fausse l'histoire. Devenu maussade,